Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 7 juin 2023. Et un matin, je vous disais que ça faisait 18 ans que je n'avais pas vu un marché aussi pénible et que j'avais le syndrome de la page blanche. Eh bien, je vous ai menti parce que hier, c'était presque pire. En termes de performance ou de danger, c'était tout à fait supportable puisqu'il ne s'est rien passé. Mais c'est en revanche du côté emmerdement que ça devient pénible. Oui, parce que pour les chroniqueurs boursiers, on ne va pas se leurrer. C'est quand même plus drôle quand ça bouge et que quand vous avez des journées comme hier où vous passez la séance à vous coller des baffes histoire de ne pas s'endormir. Heureusement que la SEC a toujours des idées de génie pour nous maintenir un peu réveillés. Une chose est certaine, ça n'est pas compliqué de parler performance puisque les indices n'ont virtuellement pas bougé. Le Dow Jones prenait 0,03%, le S&P 500 avançait 0,24% pendant que le Nasdaq grappillait 0,36% parce que la tech c'est quand même plus cool que le reste et que AMD prenait 5% parce qu'une sombre banque d'affaires quelque part aux USA a augmenté son objectif de prix à 150. Et qu'encore une fois, la tech, c'est quand même de pestouvi. La question restant tout de même, jusqu'à quand? Et puis, ça n'était pas mieux en Europe. Le DAX était en hausse de 0,18%, le CAC de 0,11%. Et tout ça pour vous dire que le meilleur performeur du moment de la séance d'hier, c'était le SMI. Nous en sommes donc réduits à voir le SMI comme le truc le plus sexy de la séance. C'est vous dire où on en est. Pour le reste et pour justifier cet immobilisme, on se cherche toujours des excuses. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on en a des excuses. Si vous pouviez prendre un micro et faire une interview de Monsieur le Marché, alors Monsieur le Marché étant l'ensemble du sentiment des bourses mondiales, à ne pas confondre avec Monsieur Le Maire, qui est un auteur français de romans destiné à un public adulte et qui parfois gère l'économie française. Donc si vous pouviez interroger Monsieur le Marché pour savoir ce qu'il pense, il vous répondrait sûrement qu'il analyse les composantes économiques qui sont en sa possession pour essayer de savoir ce que va faire la Fed compte tenu des indices macroéconomiques que nous connaissons et que nous anticipons d'ici au 14 juin. Autrement dit, en bon français, il brasse de l'air en racontant n'importe quoi sans trop savoir où il va. D'où la VIX qui s'effondre parce que monsieur, le marché ne s'intéresse à rien, mais en même temps, tout au fond de lui, il ne pense même pas que l'on pourrait baisser parce que tout va tellement bien qu'il n'est pas nécessaire de se couvrir. Vous l'aurez donc compris, l'obsession du moment, c'est attendre la fête de mercredi prochain pour savoir si elle va encore monter les taux ou si elle va maintenir sa pause. On voit clairement que le choix est passionnant. Moi, je dis passionnant parce que si elle monte les taux, on sera content parce qu'on va se dire « cette fois, c'est vraiment la dernière ». Et si elle ne monte pas les taux, on va se dire « ah ben non, peut-être que la dernière, c'était en mai ». Oui, parce que pour le moment, on ne veut pas penser que Powell puisse envisager une pause en juin et monter encore les taux en juillet. Il n'oserait pas gâcher nos vacances à la plage et venir monter les taux alors que nous sommes sous perfusion de piscines de rosée. Donc encore une fois, nous sommes en mode attente parce qu'après on saura. Cette fameuse période qui arrive avant chaque publication de CPI, de PCE, avant chaque meeting de la Fed, avant chaque témoignage de Powell devant le Congrès ou avant chaque signature pour monter le plafond de la dette au firmament des étoiles et avant que chaque publication trimestrielle des 50 plus grosses capitalisations du S&P 500. Ce mode qui fait que l'on s'emmerde profondément et que l'on n'ose ou que l'on ne veut rien faire avant de savoir. Ce mode qui fait que l'on pense à chaque fois que la prochaine sera la bonne et que l'on pourra enfin investir avec une vision à plus de 12 minutes parce que cette fois, on saura. Bon, en fait, on saura jamais, mais on aime bien expliquer nos journées où on ne fait rien en disant qu'on préfère attendre pour savoir. Ce qui me ramène à la proposition de réduire l'ouverture des bourses mondiales à un jour par semaine. Ça évitera de se déplacer au bureau 4 fois par semaine pour attendre quelque chose qui ne viendra que dans une semaine alors que l'on pourrait rester à la maison pour tondre le gazon. Je suis certain que ça sera bénéfique pour la planète et les génies d'Extinction Rebellion n'auront plus besoin d'aller se coller les mains sur le béton pour pourrir la vie de ceux qui veulent bosser et la planète en sortira grandie et on arrêtera d'attendre pour rien. Mais heureusement, pendant que les grands experts de la finance mondiale attendaient patiemment avec les mains sur leur bureau ou avec les mains sous leurs fesses pour éviter la tentation de passer un ordre de bourse sans savoir, il s'est quand même passé 2-3 trucs dans le monde merveilleux de la finance pour que l'on ait des trucs à raconter dans nos chroniques boursières, histoire que les lecteurs s'extasient en se disant « Mais comment il fait pour trouver des trucs à dire tous les matins alors qu'il se passe rien ?» Alors rassurez-vous, et si vous relisez attentivement cette chronique à titre d'exemple, vous verrez que je suis passé expert en brassage d'air et que même les jours où il n'y a rien à dire, eh bien, il est possible de raconter n'importe quoi pour quand même écrire 6000 caractères et faire croire que la finance c'est quand même trop cool, voire limite rock'n'roll. Alors oui, il est vrai que si vous observez les indices et la tronche de la volatilité, l'indice VIX et l'indice VIX, on a tendance à se dire assez rapidement que la journée devant un écran de trading a dû être extrêmement pénible hier. Mais que nenni, parce qu'il y a quand même 2-3 trucs qui se sont produits. Quelques histoires que je vais vous conter sur le ton de celui qui a déjà lu la presse alors que vous commencez à peine à prendre le café. Première histoire, La World Bank est sortie de sa léthargie pour venir nous annoncer que selon elle et ses spreadsheets Excel, la croissance économique mondiale serait supérieure aux prévisions précédentes en 2023 grâce à la résistance des dépenses de consommation aux États-Unis et à la reprise de la Chine après la pandémie survenue au début de l'année. Mais qu'attention, ça pourrait se compliquer en 2024. On peut donc retenir plusieurs choses de ce commentaire. Tout d'abord qu'il est plus que probable que le FMI fasse le même d'ici la fin de la semaine parce qu'ils ont tendance à fonctionner de pair à cause de leurs similitudes. Similitudes qui sont leur inutilité et le fait qu'ils ont toujours un truc à dire avec 3 mois de retard. Et ensuite, le fait qu'ils ont dit exactement l'inverse de ce que pense le marché depuis 3 semaines. La reprise de la Chine, on commence à en douter. Et la résistance du consommateur américain, pareil. Seconde histoire du jour. Goldman Sachs pense que comme nous ne sommes pas encore en récession aux USA, il est possible, voire probable, que les USA puissent esquiver la dite récession et que peut-être que Powell est un génie et qu'il a sauvé le monde libre avec sa hausse des taux et que si ça se trouve, si on lui file un couteau suisse, un trombone et un rouleau de scotch, il peut aussi stopper la guerre en Ukraine, faire disparaître la faim dans le monde, apprendre l'anglais à Guy Parmelin et libérer les prisonniers américains au Vietnam. Du coup, la banque d'affaires numéro 1 du monde et de l'univers a baissé ses probabilités de récession de 35% à 25%. Hein? Alors, si ça c'est pas de la news qui fait que l'on sait pourquoi on est venu au bureau ce matin, je sais même pas ce que c'est. En tous les cas, il y a de quoi se sentir regonflé de motivation après des commentaires pareils. Moi j'ai presque envie de mettre toutes les cotisations de l'AVS en Nvidia pour fêter ça. Ou alors 50% Nvidia, 50% GameStop, histoire de faire de la diversification. Troisième histoire du jour, Boeing a trouvé de nouvelles pièces défectueuses sur ses Boeing 787 Dreamliner. Ce ne sont pas les mêmes pièces que la dernière fois, mais par contre, c'est des pièces qui constituent la dérive des avions, mais qui ne sont pas dangereuses pour la sécurité. Hein? D'accord. Le titre s'est fait démonter de 4% durant la séance avant de terminer presque inchangé. Ça doit probablement être à cause du terme « pas dangereuse pour la sécurité » qu'on est remonté. Hein? Oui, non, parce que nous savons tous, vous et moi, que si demain vous arrivez à l'aéroport pour faire un vol et qu'on vous dit que l'avion a une douzaine de pièces défectueuses, vous n'allez pas monter à bord. Mais si on vous dit que les 12 pièces défectueuses ne sont pas dangereuses, alors là, vous allez vous précipiter à bord, non? En tous les cas, moi, je me pose tout de même la question de savoir pourquoi on cherche le problème si le problème n'est pas dangereux. Non, parce qu'à moins que ce soit les appuis-têtes, en général, dans la dérive, la plupart des pièces servent à quelque chose. Bref, monsieur le marché a donc décidé que ça ne valait pas la peine de s'énerver pour ça. Quatrième histoire du jour, la SEC n'est pas foutue de faire ses annonces groupées et préfère nettement nous pourrir la vie globalement de plusieurs jours de suite. Avant-hier, le patron de la Fed, Gary Gensler, avait annoncé vouloir mettre un procès aux fesses de Binance parce que cela fait des années que la société opère comme une place de bourse, mais n'est pas une place de bourse. Comme Binance n'est pas coté en bourse et que Coinbase l'est coté en bourse, les brillants experts en finance que nous sommes ont tous attaqué Coinbase pour profiter de la mauvaise nouvelle, tout en pensant que ça allait s'arrêter là. C'était sans compter le côté vicieux de la SEC qui a annoncé hier qu'ils allaient aussi coller un procès aux fesses de Coinbase. Et pour les mêmes raisons, Coinbase a donc plongé de 21% au pire de la journée et baissait de 12% à la clôture. Les analystes tapent déjà sur une baisse de 30% de leurs revenus et 780 millions de dollars ont déjà quitté les comptes de Binance. Alors, vous dire ce que m'inspire ce genre de nouvelles mériterait une chronique dédiée à cela. Mais il faut retenir que cet immense foutage de gueule de la part des autorités fédérales qui ont laissé des boîtes opérer pendant des années avec pignon sur rue, des boîtes qui ont injecté du fric dans les partis politiques, qui ont donné leur nom à des stades qui ont été érigés au rang de American Dream pour venir les démonter et leur reprocher de faire un truc que tout le monde a laissé faire pendant des années. Je ne suis pas fan de Binance ni de Coinbase, mais encore moins de la SEC qui est tout simplement à vomir. Pour le reste, ce matin, le Japon prend un peu les profits et baisse de 1%. Hong Kong monte de 1% parce qu'il y a de la tech dedans. Et la Chine ne fait rien après avoir sorti des chiffres d'exportation misérables, contrairement à ce que pense la World Bank. Depuis que les Saoudiens ont coupé la production, le pétrole n'arrive plus à monter. Alors on nous dira que c'est parce que les traders anticipent la récession et une baisse de la demande. Hein. Mais alors Goldman Sachs vient nous dire le contraire. Toujours est-il que le baril est à 71,39, que l'or est à 1980 et ne sait plus où il doit aller et que le Bitcoin rebondit mollement à 27 000 dollars. Mais rappelez-vous toujours que nous serons à 1 million en 2030. Et puis, le dernier sujet du jour, c'est les emprunts que va devoir faire le Trésor américain. Alors, on sait depuis lundi qu'il n'y a plus une thune dans le porte-monnaie. Et si Yellen veut se verser son salaire le 25 du mois, il va falloir se bouger. On sait que les USA devraient emprunter 1 milliard, mais certains experts ont déjà dit que ça pourrait même monter à 1,6 milliard d'ici Noël. Bah ouais, faut bien verser les bonus aux membres du Congrès qui ont quand même relevé la limite de la carte de crédit de 31 400 milliards. Ah, fais-toi plaisir, c'est le contribuable qui paye la tournée. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a 15 jours, on nous disait que le Trésor américain avait besoin de 700 milliards. Et puis dès que le deal a été signé, pouf, c'est 1000 milliards. Et là, ils n'ont pas encore commencé à emprunter que l'on parle déjà de 1600 milliards. Autant vous dire que la baisse des dépenses aura été oubliée d'ici le 15 juillet et que cet automne, normalement, le Pentagone veut inventer des nouvelles armes à acheter pour lutter contre les aliens et d'ici janvier 2025, le nouveau président devra bosser le soir dans un McDo pour rembourser la dette américaine qui frisera les 36 000 milliards. Mais comme disait l'autre, c'est quoi 1000 milliards quand c'est pour la bonne cause? God bless America et vivement la fête la semaine prochaine. Cinquième page de chronique alors qu'il n'y avait rien à dire, trop fort le gars, après avoir dormi 3 heures en plus, hein. Encore plus fort. Bref, tout ça pour vous dire que les chiffres du jour seront passionnants puisqu'il y aura le chômage en Suisse, le trade balance en Macronie et aux USA ainsi que les inventaires pétroliers. Autrement dit, encore une journée de plus à attendre la Fed. Je peine à contenir mon excitation en regardant les futurs en hausse de 0,07%. Au moins, le chiffre veut dire quelque chose. Et puis, si vous ne savez pas quoi faire en cette journée qui s'annonce passionnante, vous pouvez déjà agender le 21 juin dans vos calendriers, parce que dans 14 jours, il faudra retenir une chose. Decode TV arrive. Alors, je vous laisse faire votre enquête sur le net et sur LinkedIn, mais on en reparlera ces prochains jours. Faites-moi confiance, J-14. Decode TV. En ce qui me concerne, il me reste à vous souhaiter une excellente journée et à demain, enfin, si Gary Gensler le veut bien.